Ok, bienvenue. Donc aujourd'hui, on va corriger donc le problème l'oral 2 en géométrie dans l'espace. Alors déjà, donc ça va être une correction un peu plus rapide, hein. Donc déjà l'exercice du jury. Donc on a un cube, on nous donne M un point de l'arête EF, N un point de l'arête AB, P un point de la face EFGH, donc la face du dessus. Alors, on demande de construire l'intersection du plan MNP avec la face ABFE, construire l'intersection du plan même, le même plan avec une autre face EFGH, et puis après de construire les sections de ce cube par le plan MP. Alors, je commençais donc, comme il le faut dans le jury normal, par l'analyse de la production des élèves. Alors, l'élève 1, l'intersection de MNP avec la face ABFE et MN. Donc, on peut voir des petites erreurs du style, il n'a pas mis les parenthèses autour de l'intersection du plan, le plan MNP. La face, par contre, il n'y a pas besoin, parce que en fait, la face, c'est un carré, c'est pas une face infinie, c'est pas un plan ABFE. Voilà. Et MN l'a dit comme ça, ben on ne sait pas ce que c'est, hein, c'est bon. Mais comme ça, techniquement, ça veut dire la longueur MN, évidemment, c'est pas ça. Donc c'est soit le segment, soit la droite. Alors, posez-vous la question, est-ce qu'il fallait répondre le segment ou la droite? Donc la réponse est le segment, puisqu'on intersecte un plan avec une face de cube, et la face de cube c'est fini. Donc il fallait répondre le segment MN. Deuxième chose, est-ce que, bon, il a des petites, des imprécisions, on va dire. Après, est-ce qu'il fallait une justification? Alors moi oui, j'aurais bien aimé voir la justification suivante. Donc l'intersection du plan MNP avec le plan ABFE, donc le plan qui contient le côté du cube. Donc l'intersection de deux plans est une droite, les deux plans sont séquents. M et N sont deux points distincts appartenant aux deux plans, MNP et ABFE. Donc la droite MN est l'intersection de ces deux plans-là. Et après, je dis donc le segment MN est l'intersection du plan MNP avec la face du cube ABFE. J'aurais bien aimé voir ça dans des traits formels. Vous voyez, il y a des petites imprécisions. Et il n'y a pas de justification. Deuxième question, l'intersection de MNP avec la face EFGH, donc EFGH, la face dessus, et MP. Ah là, c'est plus embêtant. Alors, donc il y a toujours les imprécisions de machin, mais vous voyez que le problème, c'est que c'est MP, il ne prolonge pas le segment MP pour aller voir jusqu'à HG. Donc là, il se limite au niveau du dessin, au point qui existe, et donc il ne va pas plus loin, l'intersection du plan. Pour lui, le plan, c'est peut-être le plan MNP, et puis s'arrête à P, quoi. Donc il va falloir revoir ça. Ensuite, question 3. Alors la question 3, c'est donc de construire l'intersection du plan avec le, enfin, du cube avec le plan, plutôt. Ok. Alors, il nous dit, l'intersection du cube avec le plan est un parallélogramme. Donc, etc. Alors, quand il vous met ça comme ça veut dire que ça, il l'a intégré comme étant soit un théorème, soit une connaissance qu'il a d'ailleurs. Donc, où est-ce que ça remonte, ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Alors, c'est pas tout le temps vrai, hein, d'accord? Si par exemple, vous pouvez enlever un petit coin du cube, et donc l'intersection, c'est un triangle, bon, bref. Donc, c'est pas vrai. Alors, où est-ce que ça remonte? Ben, ça remonte à probablement avant. Il a fait des sections de cube par des plans, du style un plan médiateur d'un côté, et puis ça donnait donc là en l'occurrence un carré. Mais bref, on peut trouver effectivement des sections de cube avec un plan qui soient des parallélogrammes. Alors, des carrés, des rectangles, etc., mais globalement des parallélogrammes. Et donc, eh ben, il s'est rappelé de ça et il s'est dit c'est un parallélogramme. Donc, il vous a construit, donc il dit, donc après, il va construire les segments MP, donc c'est bien pour lui l'intersection du plan avec le cube et MN. Donc ce sont bien les segments. Je termine la construction en ajoutant le point M tel que MNRP soit un parallélogramme. Donc comment est-ce qu'il a fait? Donc il avait les deux segments MP et MN. Il a fait la parallèle à MP qui passe par N. Il a fait la parallèle à MN qui passe par P. Et puis il a trouvé le point R. Et là vous voyez que la figure, bah, c'est pas de chance. Mais quand on construit le parallélogramme, le quatrième sommet, pardon, du parallélogramme, il tombe juste sur le segment BC. C'est quand même pas de chance. Et donc ça lui fait croire que effectivement c'est bon, c'est bien la section du cube avec le plan, puisque j'atteins le segment BC, l'arête du cube. Voilà. Ce qui renforce aussi ça, c'est que on dessine très 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 souvent les plans comme étant des parallélogrammes. Vous voyez, quand on fait le théorème du toit ou n'importe quoi, regardez dans n'importe quel livre de géométrie dans l'espace, vous allez voir que bah, les plans sont représentés par des parallélogrammes. Donc il a peut-être confondu ça, donc il va falloir revenir dessus et voir l'intersection du plan MP, donc le prolongé, puisque bah, ça, c'est pas seulement le segment MP. Donc vous voyez, ce qu'il faut faire ici, c'est rentrer dans la logique de l'élève, comprendre pourquoi il vous a dit l'intersection du cube est un parallélogramme, et avec le plan est un parallélogramme. J'ai trouvé une explication, c'est peut-être pas la bonne, mais bon, en tout cas j'en ai une. J'ai compris qu'est-ce qu'il a essayé de faire, donc il a construit un parallélogramme, et en plus j'ai l'impression que la figure, il s'est trouvé validé, si vous voulez, par le fait que le point R était sur le segment BC, alors que c'est une pure coïncidence. Donc voilà pour cet élève. Le second élève, alors, il nous en met un petit peu plus. Alors, les questions 1 et 2 sont à peu près les mêmes, c'est-à-dire l'intersection d'un plan avec une face. Et vous voyez que dans la première, il nous dit à la droite MN, et dans la deuxième, il nous dit le segment MP. Donc déjà, il n'est pas très cohérent lui-même, d'accord ? Alors, la droite, puisque soit c'est une droite, soit c'est un segment, en l'occurrence, ce sont des segments, mais bon. Donc, première chose, la droite MP, parce que, il nous donne justification quand même, la droite MN, pardon, parce que MN appartiennent au plan et au cube. Donc, on lui demande l'intersection du plan avec une face du cube, il nous met parce que ça appartient au plan et au cube. Alors, donc, c'est une maladresse, il pensait à la face du cube, et puis il a mis le cube, quoi, il est allé trop vite, et voilà. Donc effectivement, c'était la bonne justification, c'était de dire que les points M et N appartiennent à la fois à la face du cube qui nous intéresse, donc la face avant, et au plan qui nous intéresse, c'est-à-dire MNP. Donc c'est bien l'intersection de ces deux plans-là, c'est bien la droite MN, donc de ces deux plans-là, et si on se limite au cube, c'est le segment MN. Donc deuxième question, le segment MP parce que blabla. Alors donc il y a les mêmes remarques qu'avant, et il y en a une autre, c'est-à-dire qu'il a fait la même erreur que l'élève 1, c'est-à-dire qu'il s'est limité au segment MP. Il n'est pas allé plus loin, il n'a pas prolongé, contrairement à son dessin, hein, vous voyez le dessin d'un côté, mais la réponse est bien le segment MP. Pour lui, l'intersection s'arrête ici. Donc vous voyez que c'est une erreur qui a été faite plusieurs fois dans la classe, donc ça vaudra peut-être le coup de refaire un bilan, enfin de reprendre cette partie-là avec tout le monde. Et alors, vous voyez que, en question 3, il vous dit la droite MP coupe la droite HG en I, c'est-à-dire qu'il prolonge MP jusqu'à l'arête HG, et puis qu'il fait le point d'intersection. Alors, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'en 2, il a faux, il met faux, hein, et en 3, il repart sur le bon schéma ? Alors, en fait, l'explication vient du terme, à mon avis, hein, du terme qui est employé dans l'exercice. Les deux premiers, c'est construire l'intersection d'un plan avec machin, avec un cube, et ça peut être un segment, bon ok, enfin on n'en sait rien. Et bien la troisième, c'est construire la section de ce cube par le plan MNP. Et vous avez dû leur dire, quand on fait la section du cube, on veut le couper en deux, ou en deux, voilà, et avoir deux parties différentes. Et donc il s'est dit, pour que le couper MP, d'accord, il faut que je prolonge, que je continue à couper jusqu'à I. Donc voilà, le terme sectionner a dû lui faire penser, il faut que je trouve un truc qui tranche mon cube en deux parties, et donc hop, je continue à prolonger. Donc il fait ça bien, après l'intersection du plan MNP, donc bon, il oublie les parenthèses, c'est pas très grave, avec la face HGCD, alors HGCD, c'est la face du fond, et parallèle à MN, alors, la question du jury, hein, vous demande de combler, hein, de citer les propriétés qu'il utilise. Donc qu'est-ce qu'il utilise ? Il utilise le fait que les deux plans donc, qui supportent les faces, donc on va dire le plan du fond du cube et le plan avant du cube, sont deux plans parallèles, et donc, tout plan, on a le théorème, tout plan qui intersecte deux plans parallèles, les intersecte avec des droites qui sont elles-mêmes parallèles. Et donc c'est ce qu'il fait. Il y a deux plans qui sont parallèles, donc le plan de devant et le plan arrière du cube. Il y a un plan qui est séquent, c'est le plan MNP. Il est séquent avec la face avant selon MN, donc il est séquent avec la face arrière par une droite qui est parallèle à MN. Et donc c'est ce qu'il fait. Il fait passer la droite parallèle à MN qui passe par I. Il obtient J, l'intersection avec l'arête CG. Voilà pour J. Alors après, on continue, donc j'obtiens le point J et le point K. Alors, comment est-ce qu'il fait pour obtenir le point K? Eh bien, il ne vous l'a pas dit, mais en fait, il fait la même chose avec l'autre côté, c'est-à-dire, il considère la face du dessus et la face du dessous. Donc, ce sont deux faces parallèles. Il y a un plan MNP donc, qui coupe les deux faces, les deux plans parallèles, selon deux droites parallèles entre elles. Donc, la première droite, c'est MP, donc la deuxième, elle doit passer par N et être parallèle à MP. Donc, il dessine la droite NK. Enfin, il dessine la droite parallèle plutôt à MP qui passe par N et il note K, le point d'intersection de cette droite-là, avec l'arête BC. Voilà, donc c'est comme ça qu'il obtient le point K, il ne vous l'a pas dit, mais c'est ça. Et puis après, il termine en reliant K et J qu'on ne pouvait pas trouver autrement. Voilà, donc l'intersection entre le cube et le plan machin, c'est la figure MNKJI, et donc c'est bon, sa solution est bien, sauf qu'il a donc oublié, enfin, il n'a pas mis de justification. Voilà, donc je vous conseille là-dessus de regarder les problèmes de géométrie dans l'espace si jamais c'est pas très clair pour vous. Donc là, c'est ce qu'on appelle un problème d'incidence, c'est-à-dire, c'est donc la section, etc. Vous voyez qu'on ne fait pas du tout appel à des coordonnées, à des distances, rien du tout, juste la géométrie de base, quoi. Voilà. En complément, je pense qu'il faudrait que vous demandiez quelles sont les intersections possibles d'un cube avec un plan. Donc on peut avoir un triangle si on enlève un coin, on peut avoir un rectangle ou un carré si on coupe par exemple par un plan médiateur, ou si on coupe par exemple là dans la figure par le plan EHBC, d'accord, c'est un rectangle. Ça peut être un pentagone comme c'est le cas ici, et ça peut être un hexagone, donc essayez de trouver la configuration ou de regarder dans un bouquin où est-ce que c'est fait. Mais voilà, il faut peut-être avoir les différentes configurations possibles d'intersection d'un cube avec un plan de manière exhaustive. Alors je voudrais terminer ici, donc je ne vais pas vous proposer d'exercice, mais je vais regarder donc le programme de géométrie dans l'espace en collège-lycée, et puis à chaque fois on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Alors, 6e, donc parallélépipède rectangle, patron, représentation en perspective. Alors, perspective déjà. Dans le texte, hein, il vous est dit que c'est une représentation en perspective cavalière. Il faut que vous soyez au clair avec ce que c'est. Donc, perspective cavalière, il y a conservation de la propriété de parallélisme. Il y a conservation du parallélisme. C'est-à-dire, quand vous avez votre cube en perspective cavalière, regardez-le, vous avez bien que l'arête EH est bien réellement parallèle à l'arête FG, elle est représentée de manière parallèle. Par contre, il y a des choses qui ne se conservent pas, par exemple les angles droits. Vous voyez que l'angle FEH est normalement c'est un angle droit, et pourtant bah, sur la figure il n'est pas droit, etc. Donc ça c'est une perspective cavalière. Il y a d'autres types de perspectives, par exemple en art plastique, vous avez des points de fuite pour simuler, donc les droites parallèles se coupent en un point de fuite. Voilà, nous c'est perspective cavalière. Donc là, ce qui est intéressant en sixième, c'est de faire des représentations en perspective cavalière, justement. Donc regardez ce qu'ils vous disent hein, sur le côté. Aussi les patrons, je trouve que c'est pas mal de passer de deux dimensions à trois dimensions, de les faire travailler là-dessus. C'est bien parce que ça, il faut que ça développe donc leur vision en trois dimensions, ce qui est une difficulté. Et puis c'est bien aussi parce que ça vous fait des thèmes de mathématiques qui sont différents des thèmes, vous voyez, algébriques, etc. Donc ceux qui sont en difficulté avec les additions, les multiplications, les commencer avec les x, etc., les formules, oh là là, c'est compliqué. Bon, avec les patrons, avec de la géométrie dans l'espace, ils peuvent retrouver un petit peu confiance en eux. Donc cinquième, prisme de droit et cylindre de révolution. Alors il faut savoir ce que c'est qu'un prisme droit et évidemment un cylindre de révolution. Donc prisme droit, vous prenez un dessin sur le plan et puis hop, vous l'élevez de manière droite, donc en hauteur quoi. Et puis cylindre de révolution, donc c'est-à-dire vous faites tourner un segment autour d'un axe qui est parallèle à ce segment et ça vous génère un cylindre. Bon. Alors donc vous voyez qu'il faut dessiner à main levée une représentation en perspective cavalière de ces deux solides. Donc il faut pouvoir déformer pour le cylindre, hein, il faut déformer le cercle en une ellipse, voilà, en un ovale. Ok, quatrième, configurons l'espace, pyramide et cône de révolution, donc c'est un petit peu différent encore. Donc cône de révolution, c'est vous pouvez l'obtenir en ayant un axe donc, de révolution et un, un segment ou une droite qui passe par cet axe, d'accord ? Et donc quand vous faites tourner la droite séquente par rapport à, le point d'intersection, c'est le sommet de votre cône de révolution. Voilà, donc ça c'est la version mathématique un petit peu supérieure, évidemment. En collège, hein, on se contente simplement de faire un cône. Voilà, et puis pyramide, donc vous élevez sur une figure donc plane, vous avez un sommet à l'extérieur, enfin, d'accord, et hop, vous faites les arêtes qui relient les sommets de la figure plane avec le point, le sommet extérieur, quoi. En troisième, configurer la dimension de l'espace, donc déjà on commence, vous voyez, problème de section plane de solide, donc c'est là par exemple que vous allez avoir l'intersection d'un cube avec un plan médiateur, par exemple, ça vous fait un carré, ou des choses assez simples, d'accord. On parle aussi de sphère, centre, rayon, et donc il faut savoir déterminer la nature d'une section d'une sphère par un plan, je ne vous cache pas que ça fait un cercle ou un point éventuellement, mais c'est tout. Ok, il y a d'autres choses, mais bon. Après, il n'y a plus grand chose, et on se dirige directement vers la terminale S, où là, donc, on retrouve droite et plan, position relative de droite et de plan, donc ça, c'est ce que vous faites dans la leçon d'oral 1, donc étudier les positions relatives de droite et de plan. Il faut aussi établir la notion d'orthogonalité de deux droites, d'une droite et d'un plan. Alors, je vous rappelle que la notion d'orthogonalité, c'est une notion vectorielle, alors que la notion de perpendicularité, c'est une notion affine. Alors, reprenons tout ça. Ce sont les vecteurs qui sont orthogonaux, et la perpendicularité, c'est quand on est orthogonal et on a un point d'intersection, et c'est pour ça que c'est affine, puisque affine, c'est vous avez un ensemble de points, donc le point d'intersection en l'occurrence, et puis un espace vectoriel, donc les vecteurs orthogonaux en l'occurrence. Voilà, je vous rappelle que deux droites dans l'espace, alors il y a une différence hein, dans le plan et l'espace, c'est que dans le plan, deux droites sont soit parallèles, soit séquentes, alors que dans l'espace, elles peuvent être ni parallèles, ni séquentes. Quand elles sont parallèles et séquentes, elles sont forcément coplanaires, dans les deux cas, alors que si elles ne sont... elles peuvent être non coplanaires, quoi, et donc n'être ni séquentes ni parallèles, donc non coplanaires. Voilà. Vous avez donc de la géométrie vectorielle, deuxième partie du BO, donc caractérisation d'un plan par un point et deux vecteurs non collinaires, donc deux vecteurs du plan, d'accord ? Vous avez la notion de repérage, donc important aussi de faire, tout comme la géométrie, vous avez la géométrie classique et puis la géométrie repérée. Là, vous avez donc la géométrie analytique. Là, pareil, vous avez du repérage avec des coordonnées, etc. Voilà. Et puis, produit scalaire, donc c'est la dernière diapo. Donc, on fait le produit scalaire dans l'espace. On s'en sert techniquement pour deux choses. La première, c'est de caractériser l'équation d'un plan par un point. Donc tout à l'heure, hein, dans la diapo juste avant celle-là, on a vu qu'on pouvait caractériser un plan par la donnée d'un point et de deux vecteurs de ce plan. Deux vecteurs évidemment non collinaires de ce plan. Et bien là, on peut faire encore mieux, on peut caractériser un plan par un point et un vecteur orthogonal à ce plan. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, c'est qu'au lieu d'avoir deux vecteurs du plan, on a un seul vecteur, mais orthogonal au plan, pardon. Voilà. Et donc produit scalaire, donc pour deux choses, donc soit équation de plan assez facile, soit calcul de distance. Vous savez, distance d'un point à une droite, par exemple, vous faites le projet orthogonal, ou c'est le minimum de la distance AM, par exemple, avec M qui se bat sur votre droite, etc. Voilà, donc ça vous donne un petit peu le type d'exercice que vous allez devoir faire. Donc je vous rappelle, quand vous terminez donc avec l'exercice du jury, que vous avez raconté ce qui se passe pour les deux élèves, que vous avez fait la correction comme vous le feriez en terminale, donc avec les justifications, etc., je vous propose de plutôt revenir sur le plan, sur le thème, pardon, géométrie dans l'espace, dire comment ça se décline en collège, en lycée, prendre peut-être un exercice de collège, c'est pas la peine d'en faire 15, hein, ça va pas être super intéressant, mais quand même, moi j'aime bien les patrons en fait, parce que c'est pas facile en fait, ça fait passer de 2 dimensions à 3 dimensions, c'est pas si simple je trouve à faire. Et puis après, prendre par exemple 2 exercices de terminale, donc là on en avait un du style incidence, et puis un autre du style géométrie repérée avec calcul d'un produit scalaire pour minimiser une distance ou quelque chose comme ça. Voilà, ce serait très bien comme ça. Vous avez aussi en collège tout ce qui concerne les formules, puisqu'on apprend beaucoup à repérer, enfin à savoir quelle est la figure, et puis calculer son volume. Quoi. Voilà pour cette fois.